Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, quinquennat Pompidou, une certaine idée du bonheur. Bonjour Sabrina Tricot.
Bonjour.
Vous êtes historienne, professeure en classe préparatoire au Mans. Vous avez beaucoup travaillé et publié sur Georges Pompidou, notamment « Les années Pompidou », publié aux éditions Belin, c'était en 2014. Georges Pompidou vaut bien une messe. Emmanuel Macron assistera mardi prochain à Paris à celle célébrée en mémoire de l'ancien chef d'État, le jour anniversaire de sa mort. Hommage du président d'une France anxieuse à celui qui, parmi tous ses prédécesseurs, continue d'incarner une époque où la France se croyait heureuse. Les années Pompidou, c'était le bon temps, une période pleine d'emplois, de grands projets industriels, d'élévation du niveau de vie, de confort matériel, de libération des mœurs. La guerre était derrière, le progrès était devant. Lorsqu'il meurt le 2 avril 1974, Georges Pompidou ne meurt pas seul. Il emporte avec lui le meilleur des Trente Glorieuses. Son règne aura coïncidé avec une sorte de parenthèse enchantée, laquelle débute un peu avant son arrivée à l'Élysée en mai 68, pour s'achever un peu avant sa disparition avec la crise pétrolière de 1973. Mais la mémoire de ces années est évidemment trompeuse. La contestation y est forte, le nombre de jours de grève particulièrement élevé, le modèle consumériste n'est pas du goût de tous, ce que le successeur du général de Gaulle avait bien compris d'ailleurs. Alors quinquennat Pompidou, une certaine idée du bonheur, c'est le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie, Sabrina Tricot. Je précise que vous êtes en duplex des studios de France Bleu Maine au Mans. Et je voudrais pour commencer évoquer la couverture du livre que je mentionnais, « Les années Pompidou ». Sur cette couverture, on ne voit pas Georges Pompidou, mais une famille qui est en train de remplir le coffre de sa deux chevaux avant, on l'imagine, on suppose, de partir en vacances. Est-ce que ça signifie que c'est votre vision à vous, cette famille qui part en vacances, votre vision des années Pompidou ?
Alors, ce n'est pas une vision d'historien, c'est une vision mémorielle. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit dans le début de l'émission, les années Pompidou sont, dans la mémoire collective, associées à l'image du bonheur. Et le bonheur, au premier chef, ce sont les vacances, la civilisation des loisirs. Et c'est pourquoi nous avons choisi de mettre cette image en couverture du livre pour inaugurer ces années bonheur.
Alors, ce sont des années bonheur qui vont s'achever prématurément, puisque Georges Pompidou n'ira pas au terme de son septennat. Il meurt donc le 2 avril 1974, des suites, comme on dit, d'une longue maladie.
La France vit depuis hier soir à nouveau des heures graves. Le président de la République, M. Georges Pompidou, est mort. Aussitôt, l'homme de la rue, comme les personnalités politiques, ont ressenti ce deuil avec consternation. Le président de la République s'est éteint à 21h dans son appartement du quai de Béthune. Jean-Luc Hesse était sur place.
C'est très embêtant pour moi. Ça paraît pas normal du tout, à cet âge-là surtout. Je peux pas vous dire, mais ça fait quelque chose quand j'ai entendu ça à la télé hier. On n'a même pas regardé la fin du film.
Quel sentiment précisément vous avez éprouvé hier soir en apprenant la nouvelle ?
Ça m'a beaucoup attristé parce que c'était un homme bon, quoi.
Vous êtes inquiet pour l'avenir ?
Ah oui, beaucoup.
Voilà, extrait du journal Interactu, diffusé le 3 avril 1974, donc au lendemain de la mort de Georges Pompidou. On trouvait intéressant ce micro-trottoir avec notamment ce dernier intervenant, Sabrina Tricot, qui dit qu'il est très inquiet pour l'avenir. Il y a des raisons d'être inquiet à l'époque. D'abord, peut-être du point de vue politique et institutionnel, disons, après la disparition de Georges Pompidou.
Alors, du point de vue politique, non, je pense que ce que traduit la personne qui a interviewé, c'est l'angoisse plutôt économique et sociale, puisque comme vous l'avez dit, la mort de Pompidou coïncide avec la fin de la période de croissance, hein, même si c'est un peu plus subtil et que le ralentissement se fait avant 73, avant la crise pétrolière. Mais je pense que c'est plutôt la concomitance du décès du président Pompidou et de ce ralentissement économique et le chômage qui commence à s'installer, alors qu'on était dans le plein emploi précédemment, qui explique plutôt cette angoisse. Politiquement, il y a une inconnue, puisque il n'y a pas eu du tout d'anticipation de la campagne présidentielle, qui aurait été normalement prévue pour 1976. Et donc, on ne sait pas du tout qui va être candidat. Est-ce que c'est un gaulliste qui succédera à un gaulliste ? Il y a une inconnue, mais je dirais pas que c'est une inquiétude.
L'inquiétude était peut-être davantage présente d'ailleurs 5 ans plus tôt, lorsque Georges Pompidou, lui, va succéder au général de Gaulle. Inquiétude d'ordre institutionnel, c'est-à-dire qu'à l'époque, on se demande si cette constitution de la Ve République qui a été bâtie pour un homme, en particulier le général de Gaulle, si cette constitution va tenir. Est-ce qu'on peut dire que Georges Pompidou aura été notamment le président qui aura permis d'asseoir les institutions de la Ve?
Ah oui, je pense que indubitablement, c'est Georges Pompidou qui a pérennisé le socle. Et ce qu'il faut entendre par là, c'est la lecture présidentielle de la Constitution de la Ve République. Puisque, en tant que Premier ministre, il a été fidèle à cette Constitution. Et dès sa déclaration de candidature et dès ses premiers discours, il expliquait à la fois qu'il sera le président de la continuité, et donc le maintien du socle constitutionnel, la pérennité des institutions, et en même temps qu'il veut du changement. Du changement pourquoi ? Parce que il n'est plus le commandeur, il n'est plus de Gaulle, et que donc après les présidents hors normes, vient le règne des présidents, dit-il, normaux. C'est le premier à utiliser cette expression d'alors de président normal.
Et vous citez d'ailleurs, Sabrina Tricot, dans votre livre, un extrait d'un discours qu'il tient le 14 mai 69, c'est-à-dire c'est un mois environ avant son élection à la présidence. Il le tient devant sa majorité. Il dit « Un président qui n'est pas le général de Gaulle ne peut pas gouverner comme le général de Gaulle. Il doit remplacer par le dialogue et la persuasion la force que le général de Gaulle tirait de sa stature de l'histoire. » Le dialogue et la persuasion, c'est une façon peut-être de définir le style Pompidou ?
Oui, c'est quelqu'un qui a toujours voulu se poser en homme de dialogue. Et les accords de mai 68, qui permettent de dénouer la crise sociale, l'illustrent. Il a négocié avec les partenaires sociaux et il a toujours mis en avant le dialogue social comme étant une solution aux problèmes du monde du travail, à l'inverse des grèves ou des conflits qui, dans les années 60-70, on l'oublie trop souvent, sont extrêmement violents.
Oui, parce qu'il faut peut-être rappeler que mai 68 et les accords de Grenelle, on les doit sans doute davantage à Georges Pompidou qu'au général de Gaulle.
Ah oui, ça c'est la marque de Pompidou et de ses conseillers, très clairement.
Vous dites même que c'est à ce moment-là qu'il s'impose comme un homme d'État et vous faites de mai 68 le substrat géologique des années Pompidou.
Oui, c'est-à-dire que en mai 68, même si le général de Gaulle a remporté le combat, on pourrait dire, Georges Pompidou, par la manière dont il a géré la crise, qui est une manière qui est à la fois fidèle à la méthode gaullienne et en même temps différente, parce qu'il s'est imposé beaucoup plus comme un homme de la conciliation, alors pas seulement par les accords de Grenelle, mais dans sa gestion de la crise étudiante, il a été pour une politique beaucoup plus négociée. Eh bien, il apparaît aux yeux de Français, et en particulier des plus jeunes, comme une alternative possible et crédible. C'est-à-dire que s'engager pour Pompidou, c'est un changement sans prendre de risque. Et donc cette figure de l'homme d'État qui tient bon, elle est vraiment apparue en mai 68. Et il faut rattacher ça aussi à l'épisode de la disparition du général. Puisque pendant plusieurs heures, le 29 mai, on ne sait pas où est passé le général de Gaulle. On apprend seulement en fin de matinée qu'il est à Baden-Baden, en Allemagne. Et à ce moment-là, Pompidou est seul, puisque lui-même ignorait où était le général. Donc il a capitalisé sur lui la force de l'homme d'État, et donc le successeur.
Est-ce que pour autant ça lui a permis à Georges Pompidou, Sabrina Tricot, de s'émanciper de cette figure imposante qu'était le général de Gaulle, évidemment lorsqu'il est au pouvoir, mais également une fois qu'il a quitté l'Élysée. Alors on sait qu'il va disparaître quelques mois plus tard, mais est-ce que justement cette ombre, cette figure-là, elle va continuer à être pesante, en tout cas au moins peut-être pour le début du mandat de Georges Pompidou ?
Alors oui, pour le début, elle est pesante, même si Georges Pompidou ne l'a pas clairement verbalisé. Mais en même temps, il n'y a pas chez lui de volonté de s'émanciper. Il se place comme héritier du gaullisme. Seulement, il fait avec sa personnalité et les idées qui sont les siennes. Mais il n'y a pas de volonté d'émancipation, je pense.
Héritier du gaullisme, tout en ayant quand même des velléités de modification des institutions qui ont été voulues par et pour le général de Gaulle, notamment le quinquennat. Alors, il va faire un quinquennat Georges Pompidou, mais c'est la mort qui va l'y contraindre. Normalement, il aurait dû céder sa place, ou en tout cas être à nouveau candidat en 1976. Mais pendant son mandat, il va imaginer le quinquennat plutôt que le septennat, parce qu'il considère que quoi, que une consultation tous les 7 ans, c'est un petit peu trop long pour une telle charge politique.
Alors oui, vous avez tout à fait raison. Donc il a envisagé de transformer le septennat en quinquennat, réforme qui n'a jamais abouti puisqu'il n'aurait jamais obtenu la majorité des deux chambres pour la faire adopter. Et sa réflexion est sans doute double, celle que vous avez avancée, c'est-à-dire le septennat c'est trop long, le mouvement de mai 68 a montré qu'il y avait une aspiration de la population et en particulier de la jeunesse de beaucoup plus participer à la vie politique. Donc pour lui, un quinquennat permettrait de répondre à cet objectif. Après, il y a un facteur sans doute conjoncturel qui est qu'il se sait malade. Et comme il envisage de se représenter en 76, ça écourterait également le temps de sa présidence.
Alors j'ai noté dans vos interventions, Sabrina Tricot, qu'à plusieurs reprises, vous avez parlé du « en même temps » pour parler de Georges Pompidou, comme quoi c'est une formule qui existait sans doute avant l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. C'est vrai que le « en même temps », finalement, ça incarne plutôt bien ce que fut Georges Pompidou. Vous le dites d'ailleurs dans votre livre, je vais citer un extrait. « L'homme présente un syncrétisme subtil et assumé entre un passé fait d'humanité classique, d'une forme de conservatisme social » et un présent empreint d'innovation, séduit par les avant-gardes artistiques et culturelles. Modernité et conservatisme, c'était ça Georges Pompidou ?
Oui, alors je pense que le « en même temps », c'est pas tout à fait la même chose. Le « en même temps », avant de répondre à la deuxième partie de votre question, le « en même temps », il est lié aux Trente Glorieuses. Ce qu'il faut bien comprendre, et ça ferait rêver nos hommes politiques aujourd'hui, c'est que durant les Trente Glorieuses, les pouvoirs publics ont pu faire de la croissance tout en redistribuant de la croissance. Et on n'est pas dans l'équation actuelle qui est on va déshabiller Paul pour habiller Pierre. Il faut faire des réformes, il faut faire des économies. On a une croissance qui permet de redistribuer et de prendre des réformes de fond qui ont changé concrètement la vie quotidienne des Françaises et des Français. Donc c'est pas le même en même temps qu'aujourd'hui. D'autre part, oui, Georges Pompidou, il est ce mélange pétri d'humanité classique, ce monde des anciens, mais au sens vraiment humanité, et ce monde des modernes, ce féru d'art moderne. Et c'est un de ces points de désaccord avec Jacques Chaban-Delmas, qui proposait en 69 de faire une nouvelle société. Pour Georges Pompidou, ce concept, il est inconcevable, parce que pour lui, on ne peut pas faire table rase du passé. Et donc, il a toujours essayé de concilier le passé, ce qu'on pourrait appeler avec un vocabulaire structuraliste la structure, et les évolutions du monde contemporain dans lequel il vit.
Mais du coup, ça correspond assez bien à l'époque au cours de laquelle il préside aux destinées de la France, Sabrina Tricot. C'est-à-dire que c'est une société qui est encore, même si elle l'est de moins en moins, rurale, une société avec certaines valeurs et une société qui s'ouvre à la modernité avec la libération des mœurs.
Oui, mais parce que cette ouverture à la modernité, c'est un peu un accouchement avec douleur et non pas sans douleur. C'est-à-dire que l'entrée de la France dans la modernité, elle suscite des tensions. Et donc, il y a toute une partie de laisser pour compte, il y a toute une partie de gens qui voudraient une meilleure répartition des fruits de la croissance. Et donc là aussi, on a cet en même temps. Ce que je trouve intéressant, et ce que j'ai essayé de démontrer dans le livre, c'est que cette période, elle est à la fois un temps de bouleversement, d'entrée dans la modernité, et en même temps de contestation, mais qui sont pas nécessairement des contestations pour revenir à l'ancien, mais aussi des contestations pour un autre modèle de développement.
Et ce sont des contestations d'ailleurs que ne rejette pas sur le principe Georges Pompidou. Je voudrais vous faire écouter un extrait d'un documentaire qui date de 1970, qui est réalisé par Pierre Desgroppes et Hubert Knapp, qui s'appelle Adresse Élysée, documentaire qui a été rediffusé très récemment sur LCP dans l'émission Rembobe Ina. Et Georges Pompidou y parle justement de la contestation.
Non, mais il est évident qu'il faut qu'il y ait une contestation, il faut qu'il y ait une opposition, il faut que les gens, c'est du contact, du dialogue et même d'une discussion, voire d'une certaine violence que petit à petit se fait le monde. Si j'étais un simple particulier, ben je trouverais peut-être que l'action de mon gouvernement n'est pas excellente, c'est même probable. Et moi-même, au fond de moi-même, il m'arrive de critiquer certaines des choses que nous faisons. Mais je suis dans l'action, je suis bien obligé de choisir, je fais, on ne réussit pas toujours, il arrive qu'on se trompe, et par conséquent qu'on puisse être contesté. Mais quand on est dans l'action, on n'a pas le temps de discuter, toujours, et on n'a pas le temps surtout de. On ne peut surtout pas changer. Ce qu'il y a de propre dans la vie politique, c'est que vous ne refaites jamais l'histoire. Quand vous avez fait quelque chose, et bien c'est fait. Vous ne pouvez pas faire la preuve du contraire, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Voilà.
Voilà. Extrait de ce documentaire donc de 1970, Adresse Élysée. C'est assez stupéfiant ce témoignage, Sabrina Tricot.
Mais quand on connaît Pompidou, c'est pas stupéfiant. Parce que certes, l'image qu'il a laissée, c'est celui d'un homme de l'ordre, le gaullisme d'ordre. Pourtant, il est profondément humaniste et en ce sens-là, il considère que par exemple, l'art, que par exemple la littérature, ce sont des espaces où peut s'exprimer la contestation. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement dans la rue, même s'il n'était pas opposé aux manifestations. Mais pour lui, la contestation, elle fait partie de la vie politique. Elle fait partie de la vie au même titre que l'art est un art qui doit contester, hein, selon la fameuse citation qu'on cite très souvent, l'art doit contester, protester, discuter.
Je voudrais d'ailleurs citer un extrait dans lequel on se rend compte qu'effectivement Georges Pompidou a théorisé l'idée que à la fois la contestation est sans doute nécessaire et que le bonheur matériel peut avoir des limites. Il dit ceci dans le Neugordien. Alors le Neugordien, c'est un livre qu'il imagine, semble-t-il, avant d'accéder à l'Élysée et qui sera finalisé au terme de son mandat, et dans lequel il dit notamment ceci. C'est un extrait qu'on a trouvé dans votre livre Les années Pompidou, Sabrina Tricot. On voit bien qu'approche le moment où le logement HLM, même confortable, même doté du réfrigérateur, de la machine à laver, de la cuisinière électrique et de la télévision, n'apparaîtra que comme un cadre de vie, mais laissera intact, je veux dire non résolu, et le problème du bonheur, et celui du sens de la vie.
Oui, alors cette citation, je pense que c'est une clé de compréhension du personnage, puisque il a pleinement conscience que l'entrée dans la société d'abondance, dans la société de consommation, qui apporte une amélioration du bien-être matériel, ne conduit pas de manière mécanique au bonheur. Et il en veut pour preuve les événements de mai 68, qu'on qualifie souvent de révolution du bonheur. Et donc, il a toute une réflexion qui vise à trouver des solutions, mais politiques, en tant que politique, pour que la croissance se traduise par des éléments qui soient cette fois qualitative, c'est-à-dire une croissance qui soit pas seulement quantitative, on accumule des biens, on accumule des choses, le réfrigérateur par exemple, mais qui permette aux gens d'améliorer ce qu'on appelle à l'époque, hein, le concept qui est forgé, c'est celui de qualité de la vie. Et donc toute une partie de son action politique, il l'inscrit dans cette démarche intellectuelle qui est profondément humaniste.
Mais ça se manifeste comment, cette recherche de solutions pour améliorer la qualité de la vie? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui et qu'est-ce qu'il en est à l'époque?
Alors, à l'époque, donc, il fait venir à l'Élysée, au secrétariat général de l'Élysée, un conseiller que rapidement la presse appelle Monsieur Bien-être, qui est un ingénieur des mines et qui dirige le Centre d'études et de recherche sur le bien-être, qui est un centre à vocation scientifique qui cherche à quantifier le bonheur, donc à base de sondages, mais aussi d'études scientifiques. Il fait venir cet homme à l'Élysée en lui donnant pour mission de formuler des propositions permettant d'améliorer la qualité de la vie. Alors, ça peut concerner des questions comme l'environnement, mais c'est aussi des questions qui touchent au rapport humain. Par exemple, ce conseiller a écrit des notes sur améliorer la qualité des soins à l'hôpital, le rapport entre les soignants et les soignés. D'autre part, il est le premier à créer en 1971 un ministère de l'environnement. Donc, en ce sens-là, il est précurseur, et ça perdure bien évidemment aujourd'hui.
Enfin, précurseur, c'est en tout cas assez contre-intuitif, Sabrina Tricot, parce que quand on repense aux années Pompidou, c'est les grands projets industriels, c'est les champions nationaux dans l'automobile, dans l'aéronautique, c'est le nucléaire civil, c'est-à-dire ce sont des choix qui sont évidemment très structurants pour la société française, mais ce sont des choix qui sont très fortement remis en cause aujourd'hui au nom justement des considérations environnementales.
Oui, mais on peut pas lui faire grief du modèle de développement des Trente Glorieuses. Ce que je veux essayer de démontrer, c'est que dans ce modèle de développement des Trente Glorieuses, qu'aujourd'hui on qualifie de 30 pollueuses ou 30 ravageuses, et dont on paye les pots cassés, lui, sa logique, c'est non pas freiner la croissance, non pas l'arrêter, mais l'humaniser et, si on peut faire un néologisme, l'écologiser. Mais il pense pas une autre forme de croissance, parce que c'est le modèle de croissance des pays occidentaux. Tout ce qu'il essaye, c'est d'en limiter les dommages collatéraux. Et c'est en ça, je dis qu'il est précurseur, parce qu'il a conscience, contrairement à d'autres, il a conscience des effets environnementaux et des effets aussi humains de la croissance des Trente Glorieuses.
Autre réforme qui s'avère être fondamentale, en tout cas dans la vie quotidienne des Français, enfin il y en a une en tout cas sur laquelle vous insistez dans votre livre Sabrina Tricot, c'est la mensualisation des salaires. Ça, je veux dire, j'étais assez surpris en découvrant ça, parce que j'ai persuadé que ça datait de bien avant, cette mensualisation.
Non, ça c'est une réforme donc qui a été mise en œuvre par le gouvernement Chaban Delmas, mais qui tenait beaucoup à cœur du président Pompidou, hein, qui vise donc à faire bénéficier tous les ouvriers et les artisans qui étaient payés au taux horaire ou à la tâche sur le régime des employés. Et alors c'est pas qu'une question financière, c'est-à-dire en termes de gains de pouvoir d'achat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette réforme, elle a donné surtout aux gens qui étaient payés en fonction de la tâche ou au taux horaire les mêmes acquis sociaux que ceux des employés, c'est-à-dire les congés maladie, les indemnités pour les jours fériés, etc. Ce qu'ils n'avaient pas. Lorsqu'ils étaient payés comme horaire. Et Pompidou compare dans une conférence de presse cette réforme aux accords de 1936 de Léon Blum. Il dit que c'est la plus grande avancée sociale dans le monde du travail depuis les accords de 1936.
Mais comment est-ce que vous expliquez, Sabrina Tricot, en tant qu'historienne, que cette avancée sociale n'est pas imprimée autant que les accords de 36? Elle n'a même pas imprimé du tout, puisque je vous le disais, moi j'ignorais qu'elle datait des années Pompidou.
Bah parce que Monsieur Pompidou est un homme de droite.
Et que quand ça vient de la droite, on marque moins, on se souvient moins des avancées.
Mais c'est par provocation. Mais ce que je veux dire, c'est évidemment pas du tout le même contexte que 1936. Je crois que c'est cela aussi. Hein, le Front populaire est un événement. Alors que finalement, ça, c'est qu'une des réformes du président Pompidou.
Il voulait aussi, Georges Pompidou, qu'on ne se souvienne pas forcément de son nom au regard de l'histoire, en disant finalement, moi ce que j'aimerais, c'est que quand on parlera de ce quinquennat, on se souvienne plutôt que les Français étaient heureux. On y revient au bonheur, puisque chacun sait que les peuples heureux n'ont pas d'histoire.
Oui, alors ça c'est une citation qu'on dit souvent, mais je crois que c'est très révélateur. Mais comme on entendait tout à l'heure dans l'interview du documentaire de Pierre Desgroupes, c'est quelqu'un qui a conscience de la non-durée des actions politiques. C'est-à-dire que on fait une action et puis ça y est, elle entre dans l'histoire, mais finalement c'est pas forcément ce qu'on va laisser. Et Pompidou, il a pas du tout un objectif de se hisser à la stature de héros comme le général. Hein. Il faut aussi resituer ça dans c'est le successeur du général qui est de son vivant un héros national. Donc là, on revient à une normalité.
Oui, en même temps, Sabrina Tricot, alors une normalité, certes, mais il a aussi conscience de la puissance de l'image. C'est-à-dire, même s'il veut peut-être pas imprimer pour l'histoire, il veut au moins imprimer son passage pour ses contemporains, puisque on évoque ce documentaire donc où Pierre Desgroupes et Hubert Knapp le suivent hein, pendant des mois de la première année de son mandat. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à se montrer, pas seulement dans l'exercice du pouvoir, mais également dans sa vie quotidienne. On voit son épouse, dont le prénom m'échappe.
Claude.
Claude Pompidou, c'est-à-dire, il inaugure aussi d'une certaine façon la pipolisation de la vie politique.
Oui, alors ça, c'est une rupture, effectivement, par rapport à la période gaullienne, et qui est aussi la manière dont il analyse mai 68. Cette idée qu'il faut que l'Élysée s'ouvre sur le monde extérieur. Et donc, il est un des premiers hommes politiques à ouvrir l'Élysée, mais aussi, comme on le voit dans le reportage que vous avez cité de Pierre Desgroupes, il ouvre sa propriété familiale de Cajarc, dans Lot, hein, puisque les journalistes rentrent dans la maison, on voit ses tableaux. Et ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il y a une scène dans ce reportage où il est assis dans son salon, alors il y a tous les tableaux au-dessus, il discute justement de la façon d'agencer les tableaux avec son épouse Claude, et elle prend une cigarette et il lui dit tu veux du feu, bibiche. Alors, ça peut faire rigoler aujourd'hui, mais il faut imaginer que pour les gens, ça, c'est une révolution. Puisque Madame de Gaulle n'était absolument pas médiatisée, de même que le général n'avait pas une grande passion pour les journalistes et la presse. Monsieur et Madame se vouvoyaient. Et donc, tout d'un coup, on a un président, mais on est encore dans cette histoire de normalisation, qui se montre tel qu'il est. Et c'est cette idée aussi qu'il faut se faire connaître, être le président des Françaises et des Français, et pas seulement, comme l'était de Gaulle, le président de la France.
Alors, suite au passage de Georges Pompidou, certains ont pu revendiquer son héritage, mais c'est un héritage dont on a l'impression qu'il a fini un peu par s'étioler, en tout cas du point de vue de la revendication. Où sont les héritiers de Pompidou? Bonjour Amélie Perrault.
Bonjour Eva Gardette, bonjour.
Eh bien
à
manifestement,
tous.
Ils ne sont pas nombreux à revendiquer une filiation avec l'ancien chef d'État.
Eh bien oui, parce que si en 2012 aussi bien François Hollande que François Fillon disaient se reconnaître dans l'approche de Pompidou, aujourd'hui, 7 ans plus tard, on peine un peu à trouver ceux qui s'y réfèrent. Laurent Wauquiez, toutefois, en fait partie. Il disait à l'Express en juin dernier voir en Georges Pompidou un vrai point de référence. Et il encensait celui qui avait, dit-il, les pieds dans la terre et la tête dans les nuages. Le dernier à avoir su réconcilier l'élite et la France populaire. Et puis dans la très jeune génération, Aurélien Pradier, un député Les Républicains de 33 ans, il est persuadé que la classe politique doit s'inspirer de l'héritage de Georges Pompidou. Alors nous lui avons demandé ce qu'il retenait de l'ancien président.
Je retiens le lien qu'il a toujours gardé entre la littérature la poésie, l'art et la politique. Au fond, Georges Pompidou considérait que c'était deux choses tout à fait complémentaires. Et ça, je pense que c'est nécessaire de l'avoir à l'esprit, se rendre compte que les politiques ne sont pas les seuls à changer le monde ou à devoir changer le monde, qu'il y en a d'autres. Les artistes en font partie, et ça, je crois que c'est une vraie leçon pour nous, les responsables politiques. Puis ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le sens des grands projets de Georges Pompidou. Au fond, c'est peut-être la dernière époque durant laquelle notre pays a pensé son avenir, a pensé des grands projets. Georges Pompidou avait un regard très porté vers le développement industriel, le développement économique, et en même temps, il cherchait toujours à lui donner du sens. Moi, je me souviens de ses grands discours, notamment devant les chefs d'entreprise, où il disait aux chefs d'entreprise, vous avez une double responsabilité, celle de fabriquer de la matière économique, mais celle aussi de changer la société et de la changer dans le bon sens. Enfin voilà, cette tension que Pompidou avait toujours entre l'évolution de la société et le sens à donner à la société, je pense que c'est quelque chose de fondamental.
Alors quelque chose de fondamental, mais de méconnu, y compris parmi la classe politique, constate le député Aurélien Pradier. Voilà pourquoi il a mis sur pied une exposition consacrée à l'ancien président. Il est en effet convaincu que notre époque politique manque d'humilité et que les responsables politiques doivent apprendre à douter. Or, mieux connaître Georges Pompidou pourrait y contribuer, dit-il, d'où l'idée de cette exposition.
C'est un projet qui est en train de se finaliser, que j'ai eu dès mon arrivée à l'Assemblée nationale, qui en fait va mettre en valeur la part de doute chez Georges Pompidou et la force que ce doute-là lui donnait. On a ressorti dans cette expo tous les grands thèmes qui ont jalonné le parcours de Georges Pompidou. C'est-à-dire qu'on a dit, voilà comment sur la question de l'art, Georges Pompidou a fait vivre sa part de doute, voilà sur les questions économiques, combien Georges Pompidou se questionnait aussi, voilà sur... La question de la loyauté politique à l'égard du général de Gaulle. Georges Pompidou était très loyal, mais il avait aussi des questionnements. Et donc notre fil rouge de cette exposition, ce sera le doute. Pour en finir avec une grande conclusion, qui est celle de la mort de Georges Pompidou, qui est le moment où il a sûrement le plus douté face à la mort. Et en même temps, tout cela lui a donné une grande force. C'est le message qu'on va dresser dans cette exposition, qui n'est pas une exposition historique, on n'a pas cette prétention-là, et qui est une exposition qui porte un message nouveau.
Ce seront donc des photographies, des manuscrits, des citations de l'ancien président rassemblés par le député du Lot Aurélien Pradier, à voir prochainement à Paris dans un lieu qui reste à définir, puis en province, notamment dans le Lot et dans le Cantal, où est né l'ancien président il y a plus d'un siècle.
Et pourquoi pas au moment où vous vous trouvez, Sabrina Tricot, ça peut vous intéresser une telle exposition?
En tout cas, j'irai la voir assurément.
Qu'est-ce que vous pensez de la vision qui est celle d'Aurélien Pradier? Est-ce qu'elle rejoint finalement les analyses que vous faites de ces années Pompidou?
Oui, je pense que son analyse de l'homme est très fine, en particulier son lien entre la politique et la poésie. Georges Pompidou citait très souvent une citation de Paul Valéry qui est que « toute politique implique quelque idée de l'homme ». Et il a toujours essayé, dans son action politique, d'apporter cette profonde humanité à sa réflexion. Et il y a une conférence de presse où on lui demande « qu'est-ce qui est difficile dans le métier de président ?» Et la réponse qu'il fait est la suivante, c'est « fondamentalement, les grandes décisions ne sont pas difficiles à prendre parce qu'elles s'imposent. Mais en revanche, tout ce qui concerne les actions personnelles, tout le courrier que je reçois où des gens me font part de leur désespoir, de leurs problèmes, c'est beaucoup plus difficile pour moi de décider et d'aider dans ce sens-là. »
Eh ben, c'est sur cette leçon politique que nous allons nous quitter pour aujourd'hui. Merci beaucoup Sabrina Tricot d'y avoir participé. Je rappelle le titre de votre ouvrage publié en 2014 chez Belin, Les années Pompidou. Politique, c'est une émission préparée cette semaine par Amélie Perrault, réalisée par Peyrey Legras, avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan. Merci à nos camarades de France Bleu Maine au Mans qui a assuré le duplex. Émission que vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr. Dans un quart d'heure, vous retrouverez Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées. Je vous donne rendez-vous lundi à 18h20 pour du grain à moudre et dans un instant, le journal de 12h30 sur France Culture.